Eh bien, chers camarades, chers amis, travailleuses, travailleurs, alors nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la crise sanitaire qui s'est greffée à une crise économique et sociale et qui l'a aggravée, mais les plus riches s'en sortent déjà fort bien. Parce que pour les milliardaires, c'est déjà 40% de plus. Ce sont des cours boursiers qui crèvent les plafonds. Ce sont des profits records des entreprises du CAC 40. Toutes ces fortunes, eh bien, elles se sont faites au prix du renvoi des intérimaires, de l'aggravation des conditions de travail, du blocage des salaires et même de leur baisse, puisque dans de très nombreuses entreprises, il y a eu ce fameux chômage partiel et donc des amputations sur la fiche de paye. Alors oui, une minorité richissime s'est enrichie du malheur, de l'appauvrissement et de l'augmentation de la précarité des classes populaires. Quand certains dépensent des millions en caprices de riches et dans la spéculation, il y a des femmes et des hommes qui peinent à se chauffer, se nourrir ou se loger. Quand le tourisme spatial est en train de se développer, eh bien, il y a des femmes et des hommes qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée ou la Manche et qui errent des mois et parfois des années à la recherche d'un pays. Et certains d'entre eux se meurent aujourd'hui de froid à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne à cause de calculs sordides. En ce moment se termine la COP26, la 26e conférence donc des Nations Unies pour le climat. Cela fait donc 30 ans que les chefs d'État promettent de lutter contre le réchauffement climatique et cela fait 30 ans que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Et elles augmenteront encore demain. Oui, elles augmenteront encore demain parce que pour les réduire, il faudrait contrôler les agissements des multinationales. Il faudrait limiter l'exploitation qu'elles font des ressources naturelles. Il faudrait empêcher le gaspillage généré par le marché capitaliste. En fait, il faudrait une mobilisation collective des moyens de production, des connaissances et des intelligences. Et la propriété privée capitaliste, le droit quasi illimité de faire des profits avec tout et n'importe quoi, et la concurrence folle l'en empêche. Et regardez ce qui se passe avec les vaccins contre le Covid, c'est la même chose. La propriété capitaliste et le droit de Moderna et de Pfizer à imposer leurs brevets et à encaisser leurs profits passent avant la mobilisation collective qui pourrait permettre à tous ceux qui le veulent sur la planète de se faire vacciner, y compris dans les pays les plus pauvres. Où que l'on regarde, on en revient toujours à la même conclusion. Dans cette société capitaliste, il n'y a que les profits, les capitaux et la propriété privée qui comptent. Ce sont les principaux obstacles qui se dressent devant nous et qui nous rendent impuissants à affronter les défis qui se posent à l'humanité tout entière. Toute la société, la France et le monde entier crèvent de cette course au profit, de cette propriété capitaliste, de ce marché et de la concurrence. Mais évidemment, ce n'est pas de cela dont il sera question dans la prochaine campagne présidentielle. Nous ne sommes pas appelés à voter pour ou contre le capitalisme, pour ou contre l'exploitation, pour ou contre la loi du profit et du marché. Nous sommes appelés à voter pour des politiciens qui veulent gouverner dans le cadre de ce système, dans le cadre de ces lois capitalistes. Eh bien, camarades, candidate à la présidentielle, j'affirmerai que ce sont ces lois, ce cadre capitaliste qu'il faut supprimer. J'affirmerai ce que le mouvement ouvrier a porté des décennies durant. La société capitaliste ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Je pense aux intérimaires qui sont renvoyés du jour au lendemain et qui vivent dans l'insécurité permanente. Je pense à ceux qui ont des incapacités physiques et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Je pense aux femmes qui s'occupent seules de leurs enfants à qui on ne propose que des petits boulots mal payés. Je pense aux employés territoriaux à qui on supprime des jours de congé. Je pense à tous ceux dans les entreprises qui n'arrivent plus à suivre les cadences, à tous ceux qui triment du matin au soir et qui galèrent pour joindre les deux bouts, aux retraités aussi, dont les pensions sont insuffisantes et n'augmentent pas depuis des années. eh bien, il faut qu'ils fassent entendre leurs intérêts dans cette campagne, leurs intérêts de classe, qui sont à l'opposé de ceux du patronat. Il faut dire dans cette campagne qu'une poignée de milliardaires ne fait pas un pays. Ceux qui font tourner la société, qui produisent toutes les richesses, ce sont les hommes et les femmes du camp des travailleurs. Leurs intérêts, leurs besoins doivent passer avant ceux des capitalistes. Les salaires avant les dividendes, les emplois avant les profits, les retraites avant les sinécures d'une minorité de parasites. L'augmentation brutale des prix des carburants, du gaz et de l'électricité plonge de nombreux travailleurs dans l'angoisse. C'est la galère pour trouver la pompe à essence la moins chère, la galère pour se réapprovisionner en fioul. Et combien de familles ont froid en ce moment même dans leur logement parce qu'ils n'arrivent pas à se chauffer correctement. La situation est d'autant plus dure que cette flambée des prix survient alors que les salaires sont bloqués depuis des années déjà. Et que nous sommes confrontés à une offensive générale du patronat pour les baisser, avec la diminution ou la disparition de primes, ou encore avec l'allongement du travail non payé. Et il ne faut pas oublier que des centaines de milliers de salariés n'ont pas touché une paye entière depuis un an et demi à cause du chômage partiel. Chômage partiel qui est prolongé dans nombre d'entreprises à cause des pénuries de matières premières. Alors autant dire que le chèque inflation de 100 euros de Castex est complètement à côté de la plaque. Les travailleurs et les retraités n'attendent pas de l'État qu'il leur glisse un petit billet par-ci, par-là. Ils veulent pouvoir vivre de leur salaire ou de leur pension de retraite. Alors, il faut une augmentation générale des salaires de base, il faut une augmentation des pensions de retraite et des allocations. Avec son chèque inflation de 100 euros, destiné à ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, le gouvernement avoue une chose importante, c'est que 2000 euros est un seuil en dessous duquel on a du mal à s'en sortir. Eh bien, cela signifie qu'il faut remonter le SMIC. Le SMIC qui condamne plusieurs millions de salariés à la pauvreté, à commencer par ceux forcés de travailler à temps partiel. Donc il faut remonter ce SMIC à cette limite désignée par Castex de 2000 euros. Et bien sûr, il faut indexer les salaires et les pensions sur les prix, parce que l'inflation redevient un problème très sérieux. Parce que tôt ou tard, la flambée des prix de l'énergie, la flambée aussi du prix des transports et des céréales finira par se répercuter sur tous les prix, à commencer par ceux des produits alimentaires. Alors il faut que les salaires, les pensions et les allocations augmentent au rythme des hausses que l'on mesure nous-mêmes en faisant le plein d'essence ou en remplissant son caddie. Aujourd'hui, campagne électorale oblige, tous les politiciens font mine de se préoccuper du pouvoir d'achat. Les uns promettent des primes payées par l'État, les autres des baisses de taxes ou de cotisations. C'est de l'escroquerie, parce que cela consiste à prendre l'argent dans la poche de nous tous en tant que contribuables. Cela revient à demander aux travailleurs de payer leur propre augmentation de salaire. Alors, contrairement à tous ces politiciens, je dis qu'il faut prendre sur les profits pour augmenter les salaires. Et ce n'est pas une promesse, c'est un objectif de combat pour nous tous. Les augmentations de salaire, il les faut. Elles sont plus que légitimes, mais il va falloir aller les arracher au patronat par nos luttes collectives. En mai 1968, la grève générale a forcé le patronat à augmenter le SMIC de 35%. Eh bien, voilà la marche à suivre. Renouer avec les luttes, les grèves et se faire craindre du patronat et du gouvernement. Et c'est pareil pour les emplois. Lutter contre le chômage est une nécessité. Macron se vante d'avoir fait reculer les chiffres du chômage. Mais cette baisse statistique reflète en réalité une montée de la précarité. En fait, le chômage de masse, et des jeunes en particulier, est une plaie pour toute la société. Mais ce chômage de masse, il est la conséquence d'une politique bien pensée du patronat. C'est une politique qui cherche partout à supprimer des emplois et à surcharger de travail ceux qui restent au boulot. C'est une politique qui transforme partout de plus en plus de postes fixes en emplois précaires. Et c'est cette politique qui a conduit l'hôpital à l'impasse. 20% de lits fermés, des services d'urgence forcés de restreindre leur horaire d'accueil par manque de médecins, d'infirmières. C'est leur politique qui a créé cette pénurie. Même si vous avez la vocation, comment travailler dans les hôpitaux si le salaire est insuffisant et si vous ne pouvez plus soigner correctement? Alors créer des emplois, répartir la charge de travail, augmenter les salaires, répondre aux besoins de la population pour se soigner et s'éduquer, se déplacer, cela nécessitera de faire payer la bourgeoisie et donc de s'affronter avec le grand patronat, avec les financiers, avec la classe capitaliste. Je suis candidate pour affirmer cette vérité toute simple. Le monde du travail doit renouer avec les grèves, les manifestations, les occupations d'usines pour inverser le rapport de force avec le grand patronat. Les travailleurs n'ont pas besoin de promesses électorales. Ils ont besoin d'un plan de combat, ils n'ont pas besoin d'un programme électoral, mais d'un programme de lutte. La classe ouvrière a connu des périodes où elle se faisait respecter, parce qu'elle constituait une force collective qui se manifestait par les grèves, les manifestations. Il y a eu de grandes mobilisations, je pense à mai 1968 et bien plus encore à 1936. Lors de ces grandes mobilisations, donc, eh bien, les travailleurs ont réussi à inverser un temps le rapport de force avec la bourgeoisie. Mais parce qu'elle a conservé ses capitaux et son pouvoir, dès que la pression ouvrière s'est relâchée, eh bien, elle a repris la situation en main et elle est repartie à l'attaque. Tant que la classe capitaliste conserve le contrôle des moyens de production, exploités nous sommes, exploités, nous resterons. Alors, si nous militons pour le retour des luttes ouvrières et pour qu'elles aient la puissance de la grève générale de 1936, eh bien, nous militons dans la perspective que ces luttes aillent le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'à contester la domination de la bourgeoisie et sa propriété privée sur les moyens de production. Il faut que la combativité et la conscience des travailleurs les amènent à la conviction que c'est à eux de prendre le pouvoir, de prendre le pouvoir sur les entreprises, de prendre le pouvoir politique. Autrement dit, la conscience de classe doit aller de pair avec la conscience révolutionnaire. Alors, je le sais bien, nous ne sommes pas dans une période explosive et tous ceux qui veulent se battre, manifester ou faire grève ne se bousculent pas au portillon. Et défendre l'idée que les travailleurs doivent et peuvent prendre le pouvoir, c'est anticiper. C'est anticiper sur une situation qui n'existe pas encore et c'est forcément abstrait, voire complètement inimaginable pour nombre de travailleurs. Mais cela doit être dans la conscience des plus combatifs. Je ne veux pas développer davantage là-dessus, mais la plupart des révolutions ont démarré par des coups de colère déclenchés sans qu'il n'y ait d'appel de personne, sans préparation, et elles ont surpris jusqu'aux révolutionnaires. Dans ces situations de révolte généralisée, les événements vont très vite et il faut savoir où l'on veut aller avant d'entrer dans la mêlée. Les moments de mobilisation spontanée regroupent et mélangent des femmes et des hommes avec des points de vue divers et variés, aux intérêts différents et parfois même contradictoires. Eh bien, il faut des travailleurs qui sachent dans quelle direction aller, quels objectifs et revendications défendre avant que tout s'emballe. Si l'on ne veut pas que la combativité du monde du travail soit mise sur une voie de garage ou stoppée avec un plat de lentilles, eh bien, il faut une politique révolutionnaire, c'est-à-dire un parti révolutionnaire. Il faut des militants qui défendent la perspective que les travailleurs aillent jusqu'à prendre le pouvoir. Il faut des militants qui poussent les travailleurs à diriger leur lutte eux-mêmes. Parce que c'est la seule garantie qu'ils ne seront pas freinés par des appareils syndicaux ou par des partis cherchant à préserver le système. Et je le redis, oui, les choses peuvent aller vite. Les coups de colère peuvent surgir sans que l'on y soit pour rien et même sans qu'on les voie arriver. On en a fait l'expérience à un petit niveau depuis quelques années et je pense en particulier à la colère qui s'est exprimée lors des Gilets jaunes. Et au fait que cette colère a cruellement manqué de perspectives politiques, à commencer par l'idée toute simple que la force des travailleurs est dans les entreprises et qu'elle doit être tournée contre les actionnaires et la classe capitaliste qui tire les ficelles. Les syndicats sont censés mener ce combat dans les entreprises au jour le jour. La réalité est que les directions syndicales ne cherchent plus depuis longtemps à s'appuyer sur la force et la conscience des travailleurs. Quant aux partis qui se donnent, qui portent le nom de socialistes ou de communistes, ils ne parlent même plus de lutte de classe. Eh bien, il faut un parti et des militants qui portent cette perspective. Il faut un parti qui affirme qu'il faut retrouver le chemin des luttes massives et collectives du monde du travail. Un parti qui affirme que la force des travailleurs réside dans le fait qu'ils produisent toutes les richesses, les profits et les capitaux que la bourgeoisie s'approprie. Un parti qui affirme qu'il appartient au monde du travail de changer la société en renversant le pouvoir politique et économique des capitalistes, et cela à l'échelle internationale. Et quand je parle des travailleurs, je parle des travailleurs de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau et de toutes les croyances. Parce que n'en déplaise aux racistes et aux xénophobes de tout poil, le camp des travailleurs réunit des femmes et des hommes venus des quatre coins de la planète, des immigrés de longue date et d'autres arrivés plus récemment. Et nous nous mélangeons parce que nous travaillons ensemble, parce que nous souffrons ensemble et parce que nous sommes aussi appelés à nous battre ensemble. Zemmour, avec son obsession raciste, est peut-être en train de voler la vedette à Le Pen. Mais quand il prétend, entre autres insanité, que les immigrés musulmans sont inassimilables, on se demande bien dans quel monde il vit. Parce que les travailleuses et les travailleurs musulmans sont parfaitement assimilés au camp des exploités. Bâtiments, aéroports, hôtels, nettoyage, gardiennage, transport automobile, agroalimentaire, sans les immigrés, aucun de ces secteurs ne pourrait tourner. Ils ont souvent les emplois les plus mal payés, les plus durs, les plus exploités. Ils travaillent et ils payent des impôts, des cotisations, souvent sans même avoir le droit de rien dire, parce qu'ils n'ont même pas le droit de vote. Alors ils ne sont peut-être pas assimilés à la façon souhaitée par Zemmour, parce qu'ils ne parlent pas bien français et ont appelé leur fille Anissa et leur fils Ahmed, mais ils contribuent à faire fonctionner la société autrement plus que Zemmour lui-même. Et cette société qu'ils portent sur leurs épaules, eh bien, elle est autant à eux qu'à Zemmour. Alors dans cette campagne, les réactionnaires, les nationalistes, les racistes et les xénophobes disent les Français d'abord. Eh bien nous disons les salaires d'abord, les emplois d'abord, les intérêts des travailleurs d'abord, le monde du travail d'abord. Alors vous l'aurez compris, chercher un bon candidat susceptible de mieux gérer le système est une impasse pour nous. Même si je suis candidate, je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne me présente pas avec un programme de gouvernement. Ce système ne fonctionne bien que pour les riches. Il ne faut pas chercher à le gérer. Il faut le renverser. Je ne vise pas la présidence de la République. Je pense que le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir sur les grandes entreprises, sur les multinationales, sur le grand capital, il faut que les travailleurs aillent le chercher. Et je le redis, il ne s'agit pas seulement des intérêts des travailleurs, il s'agit du sort de toute la société. Le capitalisme nous condamne à la concurrence, aux crises, aux pillages, au dénuement d'une grande partie du monde. Il nous condamne aux rivalités, aux guerres. Il détruit la planète. Bien sûr, ce capitalisme a conduit au développement d'immenses possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui est à la tête de cet ordre social est incapable de les mettre au service de l'humanité. Eh bien, les travailleurs, eux, ils en sont capables. Ils en sont capables d'abord parce qu'il s'agit de leurs propres besoins, et ils en sont capables parce qu'ils font déjà tout fonctionner et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts à défendre. Ce n'est pas Hidalgo, Mélenchon, Roussel et encore moins Pécresse, Bertrand ou Le Pen qui détiennent les solutions pour changer le sort des exploités et l'avenir de la société. Ce sont les travailleurs eux-mêmes et cela dépendra de leur lutte et de leur conscience. Alors oui, l'avenir dépend des luttes des travailleurs et même d'une prochaine révolution. Et cette révolution, ce doit être une révolution du camp des travailleurs. Pour conclure, je dirais, aidez-nous dans cette campagne. Dans cette période de montée des idées réactionnaires, nous serons à contre-courant. Nous serons à contre-courant, mais il faut en être fier. Et puis même à contre-courant, nous allons porter les intérêts du monde du travail. Et nous trouverons de l'écho dans les entreprises et dans les quartiers populaires. La réussite de cette campagne ne se mesurera pas aux résultats. Elle dépendra de toutes les discussions que nous aurons eues avec ceux qui nous entourent. Elle dépendra du nombre de femmes et d'hommes que nous aurons rapprochés ou convaincus de nos idées. Je serai certes en première ligne en ce qui concerne les médias, s'ils veulent bien m'inviter un jour, un petit peu. Mais surtout, vous, vous serez en première ligne pour discuter de façon plus approfondie avec tous ceux que l'on peut réellement toucher et surtout avec ceux, les travailleuses et les travailleurs qui sont capables de changer la société du tout au tout. Alors, pour que cette campagne soit réussie, il faut que ce soit la campagne de chacun d'entre nous, il faut que ce soit une campagne militante. Alors, essayons de regrouper autour de ma candidature tous ceux qui sont révoltés, tous ceux qui ne se résignent pas à un ordre social aussi inégalitaire, injuste que stupide. Faisons notre maximum pour regrouper dans un parti tous ceux conscients que le seul camp porteur d'avenir, c'est le camp des travailleurs. Alors on va conclure avec en chantant l'International.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'international sera le genre.